à Rencontre spirituelle aujourd'hui, une émission un peu particulière consacrée au bienheureux Gilles d'Assise, qui est mort en l'an 1261 et qui est un des premiers compagnons de saint François d'Assise, un des tout premiers compagnons. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. On trouve la vie de saint Gilles, que l'on appelle aussi saint Égide. On entend parfois le nom Égidius, ça veut toujours dire Gilles. Eh bien, dans des publications qu'on retrouve souvent, des Fioretti de saint François d'Assise, on le trouve dans le livre de poche, c'est pas cher, on le trouve dans de très belles éditions aussi. Dans une préface aux Fioretti, signée par le père Carré, qui est membre de l'Académie française, il termine sa préface en disant « Lisons maintenant ces Fioretti. » Les Fioretti, ça veut dire des petites fleurs, quoi. Hein. « Lisons maintenant ces Fioretti en nous efforçant de rejoindre au-delà de l'imaginaire et parfois avec son aide, l'éblouissante réalité. » Elle répond à la question de frère Massé qui interpellait saint François, « François, pourquoi à toi ? Pourquoi à toi ? Pourquoi donc est-ce toujours vers toi que le monde accourt ?» Eh bien, François d'Assise a vu accourir des milliers de gens vers lui. Et l'un des premiers, bien, c'est le bienheureux Gilles d'Assise. On retrouve donc à la fin des Fioretti, ce texte ici commence la vie du bienheureux frère Gilles, compagnon de saint François. Et au chapitre premier, il est écrit comment saint François prédit à frère Gilles l'avenir de leur ordre. Je vous lis le texte, c'est une expérience nouvelle que je fais, de lire ce vieux texte qui date de siècles et de siècles, et qui est très beau. Frère Gilles fut le troisième compagnon de saint François et l'un de ses plus glorieux fils. Après sa réception dans l'ordre, saint François partit avec lui pour la marche d'Ancône, c'est une région de l'Italie dans le nord, et ils chantaient ensemble magnifiquement, louant le maître du ciel et de la terre. Et il lui dit en chemin, « Mon fils, notre ordre sera pareil au pêcheur qui lance son filet dans l'eau et capture des multitudes de poissons. Il retient les gros et laisse passer les petits. » Frère Gilles s'étonna de cette prophétie, car il n'y avait encore que trois frères dans l'ordre, outre saint François lui-même. Saint François ne prêchait pas encore en public, mais il disait aux hommes et aux femmes qu'il rencontrait sur ses chemins, « Faites ceci, ne faites pas cela, aimez Dieu et craignez sa colère. Faites une digne pénitence de vos péchés. » Et frère Gilles prêchait par derrière, « Suivez les commandements de mon père spirituel, parce qu'il dit la vérité. » Alors au chapitre 2, comment frère Gilles se rendit à Saint-Jacques-le-Majeur. Sur l'autorisation de saint François, frère Gilles fit le pèlerinage à Saint-Jacques-le-Majeur en Galicie. Pas une seule fois au cours de ce long voyage, il ne put manger à la moitié de sa faim, à cause de la disette qui affligeait ses contrées. Aussi, ne trouvant personne qui lui offrit une bouchée de pain, il tomba un soir sur une ferme où étaient restées quelques fèves crues. Il les ramassa et ça fut son souper. Il y dormit également, car il lui plaisait de passer la nuit en ces lieux solitaires pour pouvoir prier, veiller à son aise. Mais ce souper, grâce à Dieu, lui apporta un tel réconfort qu'en mangeant plusieurs plats de viande ou de légumes, il ne se serait pas senti mieux repu. Et poursuivant sa route, il rencontra un pauvre bougre qui lui demandait la charité. Or, frère Gilles n'avait rien d'autre sur lui que les hardes qu'il portait. Des vêtements très vieux, des hardes. Alors il trancha son capuchon et en fit don à ce misérable pour l'amour de Dieu. Continuant ainsi son voyage, la tête aux intempéries, 20 autres journées. Comme vous voyez, ce sont des récits presque du Moyen-Âge, quoi. Et du Moyen-Âge, et c'est très spécial, mais c'est très charmant. Alors au chapitre 3, comment frère Gilles fit le pèlerinage au Saint-Sépulcre en Palestine. Frère Gilles alla visiter le Saint-Sépulcre de Jésus avec l'autorisation de saint François. Il atteignit le port de Brindisi, où il resta plusieurs journées attendant un embarquement possible. comme il voulait vivre de son travail, se procura un grand broc de cuivre, le remplit d'eau à la fontaine et se promena par la ville en criant « Qui veut de l'eau? Qui veut de l'eau ?» Or, on le payait de pain et d'autres nourritures corporelles qu'il partageait avec son compagnon. Puis il passa la mer, visita le sépulcre à Jérusalem et autres lieux saints, avec une grande dévotion. En revenant, il s'arrêta plusieurs jours dans la ville de Saint-Jean d'Acre, où il faisait des couffins de joncs, c'est-à-dire des grands paniers de joncs, là, et qu'il échangeait contre de la nourriture. Il portait aussi les morts au cimetière contre la même sorte de monnaie. Quand celle-ci venait à lui manquer, il retournait à la table de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il mendiait son pain de porte en porte. C'est surprenant, hein, comme texte. Il retournait à la table de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il mendiait son pain de porte en porte. C'est un des passages les plus curieux de tout ce texte. Ainsi, au prix de dures privations et de longues fatigues, il put regagner Sainte-Marie des Anges. Et au chapitre 4, il est dit comment frère Gilles tint en plus haute estime l'obéissance que la prière. C'est un beau texte. Un frère était un jour resté dans sa cellule pour se consacrer à ses oraisons. Le gardien, c'est-à-dire le supérieur, hein, chez les franciscains, on appelle ça le gardien. Dans des communautés modernes, aujourd'hui, on dit le berger. Alors le gardien lui fit dire, au nom de la sainte obéissance, de partir demander l'aumône. Mais il se rendit d'abord chez frère Gilles pour éclaircir un point. « Mon père, je me trouvais en prière. Quand le gardien m'a demandé d'aller quêter du pain, moi je suis d'avis que la prière vaut mieux que la quête. Qu'en pensez-vous? » ?»« Mon fils, n'as-tu pas encore parfaitement compris ce que c'est que la prière? Prier véritablement, c'est accomplir la volonté de son supérieur. Il fait preuve d'un bien grand orgueil. Celui qui, ayant mis à jamais sa tête sous le joug de la sainte obéissance, s'efforce ensuite de l'esquiver pour ne faire que son bon plaisir, même s'il lui semble agir raisonnablement. Le bon religieux, dans ce domaine, est pareil au cavalier qui dispose d'un cheval puissant, par la vertu duquel il franchit les monts et les vallées et arrive sans anicroche au but qu'il s'était fixé. Le mauvais religieux, au contraire, monte une rosse timide, hein, un vieux cheval, une picouille, dirait-on ici au Québec, monte une rosse timide et sans vigueur qui le lâche au moindre trot et le livre à ses ennemis. Écoute bien ceci, mon cher fils. Si par une faveur tout à fait exceptionnelle, un frère se trouvait en conversation avec les anges du ciel, et qu'au milieu de cet entretien, il fut appelé par son supérieur, il devrait aussitôt quitter la compagnie des anges et obéir à son gardien. Chapitre 5. Comment frère Gilles vivait de son travail? Frère Gilles vécut un certain temps dans un couvent romain. Selon la règle, il s'était fixé, et que toujours il a respecté, gagnait son pain par son travail, s'arrangeant de la manière suivante. Le matin, de bonne heure, il entendait la messe avec beaucoup de dévotion, puis il s'en allait dans une forêt située à 8 000 de Rome, en rapportait un fagot de bois qu'il vendait contre du pain ou d'autres nourritures. Un jour, revenant ainsi chargé, il rencontra une femme qui lui demanda son fagot. Ils convinrent du paiement, et il l'apporta chez elle. Voyant sa qualité de religieux, la femme voulut alors lui donner beaucoup plus que promis. Mais il refusa, disant « Brave femme, ne me faites pas commettre le péché d'avarice. » Et non seulement il ne prit point ce qui avait été convenu, mais il se contenta de la moitié. Il acceptait de même tout travail qui n'était pas contraire à la sainte honnêteté. Il participait à la cueillette des olives et aux vendanges. Après les moissons, frère Gilles et d'autres pauvres allaient glaner dans les chaumes. Et si quelqu'un lui offrait une gerbe, il répondait « Merci, mon frère, mais je n'ai pas de grenier pour y mettre tant de blé », et il distribuait généralement ses épis aux autres. Rarement il employait toute une journée à ses travaux, se réservant le loisir de dire mentalement ses heures canoniales auxquelles il ne manquait jamais. Les heures canoniales, comme vous savez, c'est le bréviaire. Hein? Chapitre 6. Comment frère Gilles, prisonnier des neiges, obtint ses nécessités en appelant le ciel à son secours. En ce temps-là, frère Gilles séjournait chez un cardinal romain, aux approches du carême principal. Ne jouissant pas, dans cette ville de Rome, de la tranquillité d'esprit qu'il souhaitait, il dit à son hôte, « Mon père, il appelle le cardinal mon père, avec votre permission, nous désirons, mon compagnon et moi, aller faire ce carême dans quelque endroit solitaire. » À quoi messire le cardinal répond, « Hé, mon très cher frère, où veux-tu aller? La disette, par ici, est générale, et vous ne connaissez pas assez la population pour espérer grand-chose de sa charité. Tandis que dans mon palais, je vous fournirai tout votre nécessaire pour l'amour de Dieu. » Alors frère Gilles, pourtant, s'obstina. Il sortit de Rome. Sur une haute colline des environs, couronnée autrefois d'une bourgade, il trouva une chapelle abandonnée qui s'appelait Saint-Laurent. Ils y entrèrent et se plongèrent dans leurs prières et leurs méditations. Inconnus du voisinage, ils ne recevaient toutefois aucune dévotion et guère d'aliments. Aussi devaient-ils supporter la faim et le froid. Depuis, il y eut une grande chute de neige qui dura plusieurs jours, les empêchant de sortir et de recevoir la moindre aumône. Voyant qu'ils ne pouvaient rien espérer des hommes, frère Gilles dit à son compagnon, « Mon très cher frère, il ne nous reste plus qu'à crier au secours vers notre Seigneur Jésus-Christ. » Aussitôt, ils se mettent à genoux et prient vers le ciel, d'une voix très forte et de tout leur cœur, pour qu'il les aide dans leur extrême indigence. Et Dieu, qui est tout pitié et tout miséricorde, entendit leur appel. Aux environs, vivait un brave homme qui, inspiré par l'Esprit-Saint, regarda vers Saint-Laurent et se dit dans sa tête, « Qui sait, s'il n'y aurait pas là-haut quelques pieux ermites en train de mourir de froid et de faim au milieu des neiges? Faut que j'aille me rendre compte si j'ai trop d'imagination ou non. » Et là-dessus, il se munit de quelques pains, d'une fiasque de vin, de deux couvertures et se met en route. Et après une ascension difficile, il atteint la chapelle, il trouve les deux frères en oraison. Mais si transi et décharné qu'on croirait des morts plus que des vivants. Quand il les eut nourris, réconfortés, réchauffés, le brave homme redescendit, puis il informa ses voisins de l'existence de ces deux pauvres moines. Beaucoup imitèrent son exemple et leur montèrent ce qu'ils pouvaient pour l'amour de Dieu. Ils s'arrangèrent même entre eux afin qu'il en fût ainsi pendant tout le carême. Considérant alors la grande miséricorde du Seigneur et la charité de ses hommes, frère Gilles dit à son compagnon, « Mon très cher frère, le ciel nous a entendus. Aussi devons-nous le remercier, le louer et prier pour ces braves gens qui nous ont nourris dans notre famine et pour tout le peuple chrétien. » La piété de frère Gilles impressionna si fort le voisinage que plusieurs hommes quittèrent ce monde de ténèbres pour le suivre et que beaucoup d'autres, non disposés à devenir religieux, firent du moins de grandes pénitences dans leur maison. Et comment l'âme de frère Gilles gagna la vie éternelle, eh bien voici la fin. La veille de la Saint-Georges à l'heure de matine, ayant accompli sa 52e année, puisqu'il avait endossé l'habit de Saint-François ce même jour d'avril, l'âme de frère Gilles fut reçue par Dieu dans la gloire du paradis. Un brave homme qui se tenait alors en prière la vit monter au ciel, accompagné par beaucoup d'autres âmes libérées du purgatoire. Jésus-Christ vint à sa rencontre avec un cortège d'anges, et toute cette multitude franchit les portes du royaume éternel au milieu d'une merveilleuse musique. Cela se produisit l'année du Seigneur 1252. Le corps de frère Gilles est enseveli à Pérouse, dans le couvent des frères mineurs. Alors, nous venons d'entendre cette vie très ancienne du bienheureux Gilles, l'un des premiers compagnons de Saint-François d'Assise, et voici qu'à la fin des Fioretti, dans des éditions plus savantes, on trouve dans des chapitres additionnels quelques visions, révélations et tentations. Oui, des tentations. Alors là, on tombe avec les diables, c'est le Moyen-Âge. Des tentations qu'eut frère Gilles avant sa mort. Mais je pense bien que le diable nous court toujours après, n'est-ce pas? Alors voici, je vais vous faire encore cette lecture. C'est la première fois que je fais des lectures comme ça. Alors voici donc les chapitres additionnels au Fioretti de Saint-François. Ce sont des textes qui datent de l'époque de la musique qu'on vient d'entendre. Saint François, considérant sous l'inspiration de l'Esprit-Saint que frère Gilles était homme de Dieu et de bon exemple, en éprouvait une grande joie et lui disait qu'il pouvait aller où il voudrait. Mais celui-ci lui répondit qu'il ne voulait ni aller ni demeurer en telle liberté. 7 ans après sa conversion, Saint François l'envoya à un ermitage dans la plaine de Pérouse, qui s'appelle Fabrione. En considération de ses bonnes œuvres, la main de Dieu se manifesta sur lui. Alors vous allez voir, c'est rempli de choses merveilleuses. Il faut se faire une âme d'enfant quand on lit ça. Il faut profiter de ce qui est contenu à l'intérieur de toutes ces légendes. C'est très beau. Ainsi, parmi les autres bienfaits que Dieu lui accorda, une nuit qu'il était en prière, il fut inondé d'une telle douceur divine qu'il semblait que Dieu voulût lui arracher l'âme du corps, et le Seigneur lui montrait alors beaucoup de ses secrets et l'encourageait ainsi à le servir. Il commença à sentir comment le corps mourait, d'abord par les pieds, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'âme en sortît. Et comme elle était hors du corps, ainsi qu'il plut à celui qui unit cette âme au corps, elle se réjouissait de se contempler elle-même à cause de la grande beauté dont l'Esprit-Saint l'avait ornée. Car elle était très subtile et très brillante, au-delà de toute idée, comme il le révéla à l'approche de sa propre mort. Il y eut tant de consolation et de contemplation que son âme fut ravie en Dieu, et cette joie secrète, il ne voulait pas la révéler. Aussi disait-il, « Bienheureux l'homme qui sait conserver et protéger les choses secrètes de Dieu, car il n'est rien de si caché, qui ne soit manifesté et révélé quand Dieu le voudra. Mais je me défie de moi-même, et je veux qu'elle soit révélée plutôt par d'autres que par moi. » L'ennemi du genre humain, alors là voilà le diable qui surgit, là. N'ayez pas peur. L'ennemi du genre humain s'efforce toujours de tourmenter les saints de Dieu avec la permission de Dieu. Peu de temps après cette consolation, dans le même ermitage, comme il venait de finir ses prières et qu'il entrait dans sa cellule, il sentit l'ange de Satan. Vous savez, l'an dernier, à pareille date, non, c'était la veille. Oui, c'était l'anniversaire hier, je vous ai fait une émission sur Satan. Elle a eu beaucoup de succès, cette émission sur Satan. Alors voilà. Peu de temps après cette consolation et dans le même ermitage, comme il venait de finir ses prières et qu'il entrait dans sa cellule, il sentit l'ange de Satan, dont il ne put supporter l'horreur. Il se jeta alors en prière, priant Dieu du cœur, car de sa langue il ne pouvait parler. Il fut aussitôt délivré. Quelques jours plus tard, il interrogea Saint François en lui disant, « Père, est-il quelque chose de si terrible qu'on ne pourrait supporter de le voir, le temps qu'il faut pour dire un paternoster? » Saint François répondit, « Personne ne pourrait s'être supporté de voir le diable, pendant qu'on dirait seulement la moitié d'un paternoster, sans mourir immédiatement, à moins d'être secouru par l'aide de Dieu. » En entendant cela, Saint Gilles, on l'appelle saint dans ce texte-là très ancien du frère Léon. C'est le frère Léon qui a rédigé ce texte. En entendant cela, Saint Gilles crut que c'était vrai, parce qu'il en avait eu la preuve. À une autre époque, auparavant, comme il était à Spolète dans une église de Saint-Apollinaire où les frères demeuraient alors, et qu'il s'était levé pendant la nuit et était entré de bonne heure à l'église et qu'il s'y trouvait prosterné en prière, il sentit sur lui le démon qui le tourmentait et le molestait beaucoup. Bien qu'il se mît à prier plus ardemment, il ne put se redresser, mais il se dégagea comme il le put jusqu'à ce qu'il parvint à l'eau bénite. Il s'en aspergea avec foi et il fut aussitôt délivré de ce tourment. 18 ans après sa conversion, l'année où Saint François notre Père passa de cette vie au ciel, frère Gilles, en allant avec un compagnon à l'ermitage de Cetona, qui est dans l'évêché de Chiusi, parvint au couvent des frères de Cibottola. Dans ce couvent, il vit la nuit suivante, pendant son sommeil, un empereur, qui lui témoignait une grande familiarité. Il pensa que c'était l'annonce d'un événement qui devait lui survenir. Ils se levèrent alors et se rendirent à cet ermitage où ils firent le carême de Saint-Martin. Là, frère Gilles vit Saint-François dans une vision et lui dit « Je voudrais te parler seul à seul. » Saint-François lui répondit « Si tu veux me parler, veille bien sur toi-même. » Parce qu'il s'efforçait de beaucoup prier, alors qu'il priait dévotement 3 jours avant la nativité du Seigneur, avant Noël, le Seigneur lui apparut sous une forme sensible pendant la nuit, et frère Gilles, enivré de parfum, poussait de grands cris. Il éprouvait une telle douceur que son corps lui semblait défaillir, parce qu'il ne pouvait supporter cette joie. Ces cris épouvantaient les frères de ce couvent. Tout à coup, il fut rempli d'un parfum indicible et d'une immense douceur de cœur. Il semblait qu'il allait passer de ce monde. Un frère qui s'en aperçut commença à être saisi d'une grande peur. Il alla trouver alors le compagnon de frère Gilles et lui dit « Viens voir frère Gilles, il dit qu'il se meurt. » Il alla immédiatement à lui et lui demanda ce qu'il avait. Il lui répondit « Viens mon fils, car je désirais te voir. » Il l'aimait beaucoup et avait confiance en lui, parce qu'il l'avait nourri depuis son enfance dans de bonnes pratiques. Il lui raconta en détail ce qui lui était arrivé. Son compagnon, entendant cela, reconnut qu'il y avait là une intervention divine. Il retourna à sa propre cellule. Mais le lendemain, il alla à la cellule de frère Gilles. Il le trouva pleurant et se lamentant. Il lui conseilla de ne pas tant s'affliger, car il pourrait y perdre la vie. Frère Gilles lui répondit, « Comment puis-je ne pas pleurer, puisque je reconnais que je suis un ennemi de Dieu qui m'a fait une telle miséricorde et qui m'a donné de tels dons que je tremble de ne pas obéir à sa volonté. C'est la grâce spéciale qui lui avait été donnée par Dieu, grâce par laquelle il avait été merveilleusement transformé, qui le faisait parler ainsi. Il dit à son compagnon, « Jusqu'ici, j'allais où je voulais, et ce que je voulais faire, je le faisais avec l'aide de mes mains. Mais désormais, il n'en est plus ainsi, car il me faut agir d'après ce que j'éprouve en moi, et je crains beaucoup à ce sujet de ne pouvoir donner ce que l'on me demande. » Son compagnon lui dit, « Le Seigneur donne la grâce à son serviteur et l'aide à y persévérer. Néanmoins, il est bon d'avoir de la crainte. » Cette réponse plut beaucoup à frère Gilles. Et c'est ainsi que les récits, on pourrait continuer longtemps, les récits nous laissent voir l'âme délicate de frère Gilles, l'âme raffinée. C'était un homme simple, qui affectionnait beaucoup les qualités de Saint-François, et puis il essayait de les vivre. Et il se figurait que la haute sainteté n'était accessible qu'aux grands savants, et que seuls les grands docteurs pouvaient prétendre à l'amour parfait de Dieu. Et c'est pourquoi il admirait Saint Bonaventure, mais il a compris un bon jour que tout le monde peut devenir un saint. Et ce fut pour lui une joie délirante. Nous verrons ça tout à l'heure. Je lis dans un texte du frère Léon, qui était aussi un compagnon de Saint François, le récit de sa vie. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Trouvant donc que ce serviteur Saint Gilles était bon et fidèle, Dieu lui fit de plus grands dons, et Dieu augmenta avec une telle abondance la grâce qu'il lui avait donnée qu'il ne pouvait la cacher. Aussi, si quelqu'un s'entretenait avec lui de la gloire du Seigneur et de sa douceur ou du paradis, il était aussitôt ravi en esprit. Et pendant la durée d'un jour et d'une nuit, il restait ainsi immobile, il ne parlait pas, il ne changeait pas de place. Pour cette raison, non seulement il s'écartait de la compagnie des séculiers, c'est-à-dire des laïcs, là, mais aussi de celle des frères et des autres religieux. Aussi, disait-il, il est plus aisé pour l'homme de sauver son âme avec peu de gens qu'avec beaucoup, c'est-à-dire dans la solitude, en pensant à Dieu et à son âme, car Dieu seul est son ami, lui qui créa l'âme et le corps et non pas d'autres. C'est bien la spiritualité du Moyen-Âge, l'isolement, qui vient de cette spiritualité du désert quand Rome était en pleine décadence et que les gens fuyaient dans le désert d'Égypte ou le désert de Palestine. C'est toujours bon, il y a toujours des gens qui fuient comme ça dans les déserts des monastères. Il en faut pour soutenir par leurs prières et leur amour l'ensemble de l'humanité. Mais cette spiritualité, il ne faut pas l'appliquer à tout le monde, loin de là, c'est une spiritualité particulière, mais qui peut s'appliquer dans notre monde parce qu'il y a beaucoup de gens dans la solitude. Dans nos villes, combien de gens sont seuls. Hein? Et c'est consolant de voir, quand on lit les paroles de Saint Gilles, qui dit « Car Dieu seul est son ami, lui qui créa l'âme et le corps, et non pas d'autre. » Il parlait par expérience, et Saint Gilles disait « Oh, quelle grande et singulière perfection de connaître son âme! Dieu seul la connaît, et celui à qui il veut la révéler. » Aussi, Saint Gilles ajoutait « Si Saint-Pierre et Saint-Paul descendaient sur la terre et s'ils me disaient de donner satisfaction aux personnes qui veulent me parler, je ne les croirais pas. » Et il ajoutait « Qui fait mieux les affaires de son âme, fait mieux aussi les affaires de ses amis. » L'homme peut perdre par sa faute beaucoup de consolations et de visites de Dieu qu'il ne retrouvera jamais. Aussi Saint Gilles donnait-il en exemple, ceux qui jouent au dé. Pour un point qui est si peu de choses, on y perd. Et de même, pour un léger péché, si l'on ne sait s'en garder, on perd un grand gain pour son âme. Saint François parlait de même, car il est écrit « Prends garde de ne pas perdre en riant ce que tu as gagné en pleurant. » Et parce que frère Gilles, depuis le début de sa conversion, n'avait donné aucun repos à son corps, se consacrant toujours à Dieu et à son âme, il avait trouvé grâce auprès de Dieu, et il avait reçu d'être honoré par lui, comme il apparaît des secrets du ciel qu'il connut, et qui, depuis le temps de saint François, ne furent donnés qu'à bien peu. Et c'est ainsi qu'il disait répéter à certains frères, « Il faut garder les secrets de Dieu et son trésor avec grande crainte et grand soin. » Alors, frère Gilles a été gratifié de dons extraordinaires. Frère Gilles exaltait le couvent de Cetona à cause de la miséricorde de Dieu et des grâces singulières qui lui avaient été accordées dans le sudit couvent, et il le mettait au-dessus de tous les lieux du monde. Ô Saint Gilles, vraiment très saint, à qui Dieu a donné tant de grâces? C'est le cri de frère Léon dans son texte. Et frère Léon continue, Saint Gilles parlait de lui-même sous le couvert d'autrui, et il disait, Saint Paul disait qu'il fut ravi deux fois, ou avec son corps, ou sans son corps. Il ne le savait pas, et il disait, « Dieu le sait, je ne le sais pas. Mais qu'en serait-il si le Seigneur avait donné à quelqu'un une certitude à ce sujet? » Parce qu'il l'avait, lui, Saint-Gilles, la certitude. Et il a été gratifié de très grands dons. Comme frère Gilles demeurait au couvent des frères d'Angelo dans la campagne de Pérouse, et qu'il était retourné parmi les frères à l'heure accoutumée des vêpres, il commença après le repas à appeler les frères à haute voix et à prononcer des paroles très ardentes, et il fut ravi, oui, ravi, devant eux, jusqu'au premier chant du coq. Il y avait un très beau clair de lune. Comme il quittait les frères et se rendait à sa cellule, il apparut tout à coup une telle lumière qu'il semblait que toute la lumière de la lune s'y fût absorbée. Les frères en défaillirent presque d'émerveillement. En revenant vers eux, car il s'était un peu écarté, il dit aux frères, « Qu'auriez-vous fait si vous aviez vu quelque chose de plus grand, puisque pour cela vous avez ainsi défailli? » Et il ajouta, « Les petites choses paraissent grandes à qui ne voit pas ici les grandes choses. » Et cela dit, il alla à sa cellule pour s'y cacher. C'est une façon de dire que la présence de Dieu est bien plus lumineuse que la lumière qui peut se dégager d'un saint par un miracle. Et que nous sommes inconscients devant l'immense lumière de Dieu qui nous enveloppe et qui nous atteint au plus intérieur de nous-mêmes, où Dieu habite. Et nous sommes inconscients que nous sommes envahis par la lumière de Dieu. Il avait bien raison, Saint Gilles. Le texte du frère Léon continue ici, et parce que les démons ne peuvent venir à bout des hommes saints par la peur, ils recourent à des prodiges. Ils emploient d'autres artifices que pour tenter le reste des hommes, c'est-à-dire l'orgueil et la vaine gloire. Une autre fois, comme il était dans sa cellule, il entendit les démons qui se tenaient à côté de lui et qui se disaient « Pourquoi se donne-t-il tant de peine, cet homme, puisqu'il est déjà saint ?» Puis, il dit à un de ses compagnons, en qui il avait grande confiance, qu'il avait entendu ses paroles et qu'il ne s'en était pas soucié parce qu'il avait connu que c'était une tentation du diable. Mais oui, c'est une tentation du diable quand on se dit « Mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je me suis dégagé de tel défaut, je suis ici, je suis ça, je vais à la messe, je prie, etc. Donc, Je suis, pour ainsi dire, presque un saint, j'ai plus besoin de faire tellement d'efforts. Et c'est ce qui arrive souvent en religion chez les moines et les religieux, et surtout chez les laïcs encore plus, parce que les tentations sont plus fortes, de se laisser aller. Frère Léon, ici, écrit, une autre fois encore au même couvent, sous un olivier, un frère lui dit, « Père, qu'est-ce que les savants disent de cette contemplation ?» Et comme il ne voulait pas qu'il tombât en extase, ainsi qu'il en avait l'habitude, quand il entendait de tels propos, ce frère ajouta, comme s'il voulait abandonner ce sujet, « Les savants en disent beaucoup de choses. » Mais frère Gilles répliqua aussitôt, « Veux-tu que je te dise ce qu'il m'en semble ?» C'est très beau. La contemplation est feu, onction, extase, saveur, repos, gloire. Et ce frère fut très émerveillé par des paroles si profondes, prononcées avec tant de ferveur. C'est beau hein, de lire les Fioretti. Hein? J'espère que ça vous plaît un peu. Comme une autre fois, il reprenait avec humilité et charité un frère qui le méritait, celui-ci se mit en colère. Puis la nuit venant, il eut une vision qui lui disait « Ne t'irrite pas, frère, parce que le saint a repris, car qui croira en lui sera bien heureux. » Ce frère alla ensuite trouver frère Gilles et lui dit de le reprendre désormais sans hésiter. Lorsque le temps de sa mort approcha, il fut encore plus tenté par l'adversaire. Afin qu'il eût plus de repos et plus de victoire, aussi une nuit, comme il voulait se reposer après une longue prière, le démon commença à l'étreindre, au point qu'il ne pouvait faire un mouvement. C'est terrible, hein? c'est inquiétant des textes comme ça, mais c'est des textes pour se dire qu'il y a un peu de part peut-être de légende, probablement, n'est-ce pas? Bon, ne vous inquiétez pas de toute façon. Alors... Saint-Gilles se plaignait et haletait, évidemment, il était traint par le démon. Et frère Gratien, qui le servait, commença à entendre ses plaintes. Il s'approcha et entendit plus clairement, et il commença à se dire en lui-même, « Approche encore et sache ce qu'il a. S'il est en prière, laisse-le tranquille. S'il a autre chose, je lui viendrai en aide. » Il alla ainsi jusqu'à la porte de la cellule de frère Gilles. Et il commença à écouter. Voyant qu'il était en grande peine, il lui demanda ce qu'il avait. « Viens, frère, répondit-il, et vois mon état. » Il voulut ouvrir la porte, il ne le pouvait pas. Il s'en étonna et dit, « Qu'y a-t-il que je ne puisse ouvrir ?» Saint-Gilles dit, « Viens, frère, pousse fortement la porte, pour l'ouvrir de force, car je suis appuyé contre elle, et je ne puis me lever. » C'est pourquoi, en poussant fortement, il ouvrit, et il alla à lui, mais en y mettant toute sa force, il ne pouvait ni le faire tenir debout, ni même le lever. Frère Gilles lui dit, « Laisse-moi, nous sommes tous dans les mains de Dieu. » C'est beau cette parole, « Nous sommes tous dans les mains de Dieu. » Qu'a-t-on à s'inquiéter? Il est vrai que dans des situations terribles, il est difficile de ne pas s'inquiéter. Mais si on avait vraiment la foi, si nous étions des saints, « Laisse-moi, nous sommes tous dans les mains de Dieu. » Alors l'autre moine obéit, et à son ordre, resta tranquille et le laissa, mais après qu'il eut laissé un moment, il le saisit vigoureusement et le retira de ce lieu. Après s'être un peu reposé, frère Gilles dit à son compagnon, « Pourquoi le démon s'efforce-t-il ainsi de faire obstacle au bienfait de Dieu ?» Il dit aussi à son compagnon, « Tu as bien fait, frère, de venir à mon secours, que Dieu t'en récompense. » Il lui répondit, « Pourquoi, père, ne m'appelais-tu pas et ne me disais-tu pas ton angoisse? Si tu étais venu à mourir, nous aurions, toi et nous, mérité d'être hautement blâmés. » Saint-Gilles lui répondit, « Que t'importe, frère, que l'on tire vengeance de nos ennemis. Car plus nos ennemis font obstacle aux bienfaits de Dieu, plus bas ils sont précipités en enfer. Dieu ne fut-il pas avec moi dès le début pour me défendre? Et c'est par sa miséricorde qu'il laissa persécuter un pécheur, qui sait qu'il est né et conçu du péché. Il n'est pas étonnant que le démon s'efforce de contrecarrer celui qu'il voit aller, d'où il est tombé lui-même. Aussi m'a-t-il souvent harcelé et tourmenté, et ne me laisse-t-il d'aucune façon en repos. » On peut prendre ça avec un grain de sel, mais se dire que nous aussi qui avons des tentations, la seule chose à faire, dans les moments de faiblesse, de désespoir, de trouble, d'incapacité de prier, de lâcheté, d'irritation, de colère, de vengeance, etc., 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 que de péchés nous habitent. Mais il faut bien dire, tous, nous sommes dans les mains de Dieu. Une nuit encore vers la fête de Saint-Benoît, donc c'est le 21 mars à la fête de Saint-Benoît. Je vous ai parlé de Saint-Benoît le jour de la Saint-Benoît, le 21 mars dernier. Une nuit encore vers la fête de Saint-Benoît, comme le Saint-Frère Gilles priait Dieu, et que le démon le tentait, le tourmentait, le molestait, il appelait dans une grande crainte avec des cris terribles en disant « Au secours, frère ! Au secours, frère !» À ces cris, frère Gratien, qui était tout près, se leva rapidement, se dirigea vers lui, commença à l'appeler et à lui dire « N'aie pas peur, père, n'aie pas peur, je viens à ton secours !» Il alla à sa cellule et dit « Qu'avais-tu, père ?» Il répondit « Ne t'en inquiète pas, frère. » Et ce frère dit « Laisse-moi, père, rester à côté de toi, puisque tant de tourments et de peines t'est donné par le démon. » Et Saint Gilles répondit « Dieu t'en récompense, frère. Tu as bien fait de venir à moi, mais retourne maintenant dans ton couvent. » Puis le soir, après le repas, il dit « Cette nuit, je vais au martyr que j'attends. » C'est comme s'il avait dit « Je n'y échapperai pas. » Aussi, disait-il en parlant à son compagnon, « Il n'y aura aucun ordre meilleur et plus prompt à servir Dieu que celui des frères mineurs. Ah, puissent-ils retrouver ce cœur, cette âme, nos frères franciscains, hein? Je salue justement le frère, le père Comtois, qui m'a aidé à faire cette émission. Quel franciscain, quel frère mineur admirable, hein? Que j'aime beaucoup. Comme il approchait de l'époque de sa mort et qu'il venait vers ses frères, il dit avec une grande joie à l'un de ses compagnons, « Que t'ensemble, mon fils, j'ai trouvé un trésor si grand, une splendeur si grande et si éclatante que la langue de chair ne pourrait les décrire. » Et il dit, « Mon fils, je pille. Que t'ensemble, mon fils, que Dieu te bénisse. » Et il répétait ces paroles, et il était rempli d'une telle joie et d'une telle allégresse quand il disait ces paroles qu'il paraissait ivre de l'Esprit-Saint. Comme ce frère l'invitait à manger, il lui dit, « J'ai une excellente nourriture. » Le frère répondit, comme s'il le tentait, « Ainsi, vous convient-il, père, de manger une bonne nourriture ?» Et le saint ne supporta pas ces paroles et dit, « Tu n'as pas bien dit, frère, tu n'as pas bien parlé. Je préférerais que tu m'eusses donné un soufflet. » De croire que cette sainte âme sentait déjà que son bien-aimé voulait l'arracher à son corps pour qu'elle s'en allât jouir de ce fruit du ciel et de ce trésor qu'il avait tant désiré de trouver depuis le jour de sa conversion jusqu'à ce jour et dont le désir lui avait fait imposer tant de fatigue, car Dieu, dans sa souveraine bonté, avait comblé ses vœux en lui donnant cette mort qu'il avait prédite et désirée. Gilles d'Assise est un spirituel. Aux différents sens du mot. L'histoire que je vous ai lue aujourd'hui nous montre un homme timide, peut-être au départ, hein, pauvre de Dieu, et qui a acquis avec l'âge un aplomb solide. C'est un grand contemplatif. Il se révèle par son franc-parler. Il devient célèbre à travers les siècles. Modèle, point de départ. On le voit par ce texte de frère Léon. Et on a entendu tout à l'heure, hein, il désire la mort, parce que c'est la grande rencontre avec celui qu'il aime. Un jour, dit le frère Léon dans son texte, que j'achève, là, un jour qu'un frère lui parlait, en lui disant qu'un serviteur de Dieu devrait toujours avoir désir et soif de mourir martyrisé, il répondit, « Je ne saurais mourir de meilleure mort que de celle de la contemplation. » Il y a des savants qui, analysant le Saint-Suaire de Turin, croient que le Christ est mort d'amour, le cœur ayant flanché. C'est fort probable et fort possible. Je ne saurais mourir de meilleure mort que de celle de la contemplation. Aussi, le frère Gilles alla un temps chez les Sarrasins, chez les musulmans, dans le désir d'y mourir, comme martyr. Puis de retour, il mérita de monter aux cimes de la contemplation et il dit « Je ne voudrais pas être mort, alors, de la mort du martyr. » Aux approches de la mort, peu de jours auparavant, il commença à avoir de la fièvre. Il ne pouvait ni manger, ni dormir, ni reposer. Par la grande souffrance de la toux, des maux de tête et de poitrine. Mais les frères le transportaient sur son lit pour lui donner du repos. à la vigile de Saint-Georges martyr. Hein? C'est la fête de Saint-Georges aujourd'hui. À l'heure de matine, alors que les frères le portaient ainsi sur le lit et qu'il paraissait reposé, sans aucun spasme de mort, il ferma les yeux et la bouche. Et cette très sainte âme fut portée au paradis. Je vous lis le texte du XIIIe siècle. Ô Saint-Gilles, c'est toujours le même texte, ô Saint-Gilles, vraiment très saint, toi qu'en ce même jour Dieu inspira et conduisit à Saint-François pour que tu le suives et qu'il te revête de l'habit religieux, c'est en ce même jour où tu es venu faire pénitence qu'il t'a, après 52 ans, arraché à la pénitence et conduit à l'éternel repos. Il est mort le jour de son entrée, le jour où il a décidé de suivre Saint-François. Et je termine la lecture. Une sainte personne vit en vision le Seigneur, avec une multitude d'anges et d'âmes saintes, venir dans les airs à sa rencontre, avant qu'il ne montât au ciel. Ils emportèrent cette âme avec honneur et gloire dans le champ des anges. On a des textes magnifiques de Saint-Gilles, ou du bienheureux Gilles d'Assise, mort en 1261. En voici un sur la prière. La prière est le principe, le moyen et la fin de tout bien. La prière illumine l'âme, et par elle, l'âme discerne le bien du mal. Tous les hommes pécheurs devraient faire cette prière continuellement tous les jours, en ferveur de cœur, c'est-à-dire prier Dieu humblement, de leur donner une parfaite connaissance de leur propre misère, de leurs péchés, des bienfaits qu'ils ont reçus, et qu'ils reçoivent de lui, le Dieu bon. Mais l'homme qui ne sait pas prier, comment pourrait-il connaître Dieu? Tous ceux qui doivent être sauvés, si sont gens qui jouissent de l'intelligence, il est nécessaire qu'ils se convertissent finalement à la sainte prière. Un frère dit au frère Gilles, « Père, il me semble que l'homme devrait éprouver une grande douleur et un grand regret quand il ne peut avoir la grâce de la dévotion dans sa prière. » Et frère Gilles lui répondit, « Mon frère, je te conseille de faire ton affaire tout doucement, car si tu avais un peu de bon vin dans un tonneau, ou sous ce bon vin il y aurait encore de la lie, il est bien certain que tu ne voudrais ni heurter ni agiter ce tonneau pour ne pas mélanger le bon vin et la lie. La lie, vous savez, c'est cette espèce de crasse qu'on voit au fond des bouteilles, des vieilles bouteilles, là. Et je te dis de même que tant que la prière ne sera pas séparée de toute concupiscence vicieuse et charnelle, elle ne recevra pas de consolation divine, car elle n'est pas pure devant Dieu, cette prière qui est mélangée avec la lie et de la sensualité. Et par suite, l'homme doit s'efforcer, autant qu'il le peut, de se débarrasser de toute la lie de la concupiscence pour que sa prière soit pure devant Dieu et pour qu'il reçoive d'elle la consolation divine. Un frère dit au frère Gilles, « Père, j'ai vu des hommes qui ont reçu dans leur prière la grâce de la dévotion et des larmes, et moi, je ne puis sentir aucune de ces grâces quand j'adore Dieu. » Frère Gilles lui répondit, « Mon frère, je te conseille de travailler humblement et fidèlement dans ta prière, car on ne peut avoir les fruits de la terre sans fatigue, et sans y mettre d'abord son travail, et encore après le travail, les fruits désirés qui se produisent, ne produisent pas immédiatement. » Tant que ne sont pas venus le temps de la saison. Et de même, Dieu ne donne pas immédiatement à l'homme des grâces dans la prière, tant que ce n'est pas venu le temps convenable, et tant que l'esprit n'est pas purifié de toute vicieuse affection charnelle. Donc, mon frère, travaille doucement et humblement dans ta prière, car Dieu, qui est toute bonté et affabilité, qui connaît et discerne ce qu'il y a de meilleur en chaque chose, te donnera dans sa bienveillance beaucoup de fruits de consolation quand seront venus le temps et la saison. » Un frère interrogea le frère Gilles en lui disant, « Père, quel remède dois-je prendre pour pouvoir m'abandonner à la prière plus volontiers, avec plus de désir et plus de ferveur? Car quand je veux m'adonner à la prière, je suis endurci, paresseux, aride et sans dévotion. » Alors le bienheureux frère Gilles lui répondit en ces termes, « Un roi a deux serviteurs, l'un a des armes pour pouvoir combattre et l'autre n'a aucune armure. » Tous les deux veulent entrer dans la bataille pour combattre contre les ennemis du roi. Celui qui est armé entre dans la bataille et combat vaillamment. Mais l'autre qui est désarmé dit à son seigneur, « Mon seigneur, tu vois que je suis nu et sans armes, mais par amour pour toi, je veux entrer volontiers dans la bataille et combattre désarmé comme je le suis. » Alors le bon roi, voyant l'amour de son fidèle serviteur, dit à ses ministres, « Allez avec ce mien serviteur, et revêtez-le de toutes ses armes qui lui sont nécessaires pour pouvoir combattre, afin qu'il puisse entrer en sécurité dans la bataille et marquer toutes ses armes de mon sceau royal, afin qu'on le reconnaisse pour mon fidèle chevalier. » Et c'est ainsi qu'il arrive souvent à l'homme quand il va prier. C'est-à-dire qu'il se trouve sans dévotion, paresseux et l'âme endurcie. Mais pourtant, il fait effort. Et pour l'amour du Seigneur, il entre dans la bataille de la prière. Et alors, notre roi et Seigneur, plein de bénignité, voyant l'effort de son chevalier, lui donne, par les mains de ses ministres, les anges, la dévotion, la ferveur et la bonne volonté. C'est un conseil précieux. Demandons à Dieu de nous aider à prier quoi? Esprit Saint, prends-moi. C'est tout. C'est très simple. Voilà que ce bienheureux Gilles pourrait nous accompagner autour de la journée. Pensons à lui, invoquons-le pour nous aider.